les mots des religions. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Canal Académie pour cette nouvelle émission sur les mots du protestantisme a le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Arnold de Clermont. Jean-Arnold de Clermont, bonjour.
Bonjour.
Jean-Arnold de Clermont, vous êtes pasteur de l'Église réformée de France depuis l'année 1967. Et depuis, quel parcours ? Alors, un parcours qui commencera avec une expérience africaine à Bangui, au service de l'Église protestante du Christ roi, 4 ans là-bas, au service de la jeunesse.
6 ans même, au total.
Donc, une grande aventure africaine.
2 années dans la coopération, et puis ensuite 4 années comme pasteur de cette église.
Voilà, et qui marquera certainement votre investissement et votre parcours par la suite.
Et toute ma réflexion et toute ma vie, sans aucun doute.
Jusqu'au mot « mission », au singulier que nous allons aborder dans quelques instants. Alors, après cette expérience africaine, vous revenez donc en poste à Paris et là, vous travaillez à la mission DEFAP, qui est un service de mission protestante.
C'est ça. En fait, j'exploite ma connaissance de l'Afrique pour informer les églises de France.
Alors tout de même, après, de 78 à 85, une expérience en paroisse, c'est d'abord à Rouen. Il y en a une seconde un peu plus tard.
Oui, ce sera à Paris, après une période où je préside la région Nord-Normandie de l'Église réformée.
Très bien, donc vous vous promenez un peu à travers la France et à travers votre protestantisme.
C'est une promenade limitée au nord de la France, tout compte fait.
Alors, la Fondation Jeune Bost a aussi occupé une partie de vos engagements et une partie de votre vie.
Oui,
quelques mots sur
brièvement,
la Fondation.
Finalement, parce que j'ai arrêté tous les engagements autres pour être totalement au service de la Fédération protestante. Donc, j'ai arrêté cette vice-présidence de John Bost.
De John Bost. Alors, pour les auditeurs de Canal Académie, je rappelle que la Fondation Bost prend en charge 1 million de personnes souffrant de lourds handicaps physiques et mentaux. Vous vous lancez aussi dans les éditions, Les Bergers et les Mages, dont vous êtes le président pendant une quinzaine d'années.
C'est la société d'édition de l'Église réformée. Et j'étais très attaché, depuis mon expérience au service protestant de mission DEFAP, au département communication de la Fédération protestante. Et très naturellement, on m'a demandé de présider cette société.
Alors, une date importante dans votre vie, c'est le 1er juillet 1999. Vous prenez vos fonctions en tant que président de la Fédération protestante de France. Et cela pendant 2 mandats de 4 ans chacun.
C'est cela.
Donc, qu'est-ce qui a marqué votre présidence ? Quelle a été votre priorité ?
D'abord, de faire en sorte que le protestantisme français ait une voie publique. C'est la responsabilité de la Fédération protestante. Mais bien sûr, une voie publique en relation avec les sujets de l'époque, ça a été les sectes, la laïcité, et puis un sujet plus interne mais qui avait des répercussions externes, l'accueil des églises évangéliques au sein de la Fédération protestante, à une époque où les évangéliques, sous l'image totalement déformée qu'en donnaient M. Bush et les États-Unis, s'approchaient de la Fédération protestante pour participer au débat public en France.
Cela a donc donné lieu à l'entrée, le 12 mars 2006, de 5 églises dans la Fédération protestante de France, sur votre initiative.
Avec notamment la grande église adventiste en France, qui est vraiment une église très importante.
Vous présidez de 2003 à 2009 la Conférence des églises européennes, qui rassemble 125 églises anglicanes, orthodoxes, protestantes de tous les pays européens, c'est énorme.
C'est en fait le prolongement de mon engagement à la Fédération protestante, mais développé à la dimension de la Grande Europe. Et ça a été une expérience tout à fait passionnante d'ouverture à des églises que je connaissais mal. Je connaissais mal l'orthodoxie, je connaissais mal les églises de l'Europe de l'Est, les églises de l'Europe du Nord, et j'ai appris à les connaître et j'en suis très reconnaissant.
Et aujourd'hui, retour en quelque sorte au point de départ, à ce mot de mission, vous êtes président du service protestant de mission, le DEFAP, depuis le mois de juin 2007. Vous avez choisi, pour les auditeurs de Canal Académie, d'examiner avec nous aujourd'hui, en quelques minutes, le mot de mission au singulier. Quelle est cette consonance ? Quel est ce terme de mission ? Comment résonne-t-il ? Et qu'avez-vous souhaité en faire de ce mot de mission ?
J'ai souhaité en parler parce que c'est un concept qui est en crise, qui est attaqué aussi bien de l'extérieur que de l'intérieur.
Comment ? Et
eh bien,
pourquoi ?
Pour une raison tout à fait évidente, c'est qu'il est connoté de colonialisme. De l'extérieur, la mission, c'est la colonisation. Et de l'intérieur, c'est l'idée que il y aurait priorité à se tourner vers les gens qui sont les plus éloignés de nous en Afrique, en Asie, en Amérique latine, alors que nous sommes bien conscients des faiblesses de la présence des églises sur notre continent et dans notre pays. Et du coup, cette conjonction des deux fait qu'on nous dit la mission, ben, c'est inutile, laissez ça à d'autres. Et puis il y a un autre raisonnement qui se fait jour, c'est la mission, est-ce que c'est tellement différent de l'aide humanitaire? Et l'aide humanitaire, est-ce que vous êtes compétent pour la faire? Pourquoi ne laissez-vous pas cela à de grandes ONG internationales ou nationales qui ont une plus grande compétence que vous? Et c'est pourquoi je pense qu'il est important de revenir à partir des fondements évangéliques sur ce concept de mission.
Alors justement, bibliquement, ce mot mission correspond à quoi, Jean-Arnold de Clermont?
Eh bien, moi je trouve dans l'Évangile, enfin au moins dans le Nouveau Testament, au minimum trois entrées différentes pour comprendre le mot mission. Le plus classique, on le retient à partir de l'Évangile de Matthieu et de ce qu'on appelle l'impératif missionnaire qui clôture l'Évangile de Matthieu et qui dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations, faites de mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. » Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est l'ultime parole de Jésus à ses disciples dans l'évangile de Matthieu. Et bien évidemment, on peut en recevoir une compréhension très triomphaliste et conquérante de la mission. J'appartiens au cercle des intimes du Christ, je suis proche de lui, et du haut de mes certitudes, je pars à la conquête du monde. Et c'est bien ainsi que souvent, ce texte de l'Évangile de Matthieu a été entendu par les églises occidentales et résonne encore dans certains cercles chrétiens qui découpent le monde en zones chrétiennes et non chrétiennes. Et de leurs zones chrétiennes, ils vont à la conquête des zones non chrétiennes. Un impératif effectivement connoté de colonialisme. Alors, c'est faire, à mon sens, un peu injure à l'Évangile de Matthieu que de le lire ainsi. Car dans ce même évangile, on trouve des paroles tout à fait à l'opposé, celle de Jésus qui donne ordre à ses disciples d'éviter les régions où habitent les non-juifs, c'est-à-dire les païens de l'époque, aller plutôt vers les brebis perdues du monde d'Israël. Et on comprend bien que l'évangéliste Matthieu, au moment où il écrit son évangile, c'est-à-dire 70 ans, 80 ans, après le début de l'ère chrétienne, se trouve confronté aux tensions qui existent entre communauté juive et communauté chrétienne et essaye de faire entendre aux deux l'importance du partage et y compris du partage de l'évangile. Alors on est bien loin, probablement, d'une vision triomphaliste, mais, avouons-le, l'évangile de Matthieu tend une perche considérable à ceux qui veulent avoir cette vision triomphaliste de l'Évangile.
Oui, cela peut en avoir la couleur, la saveur, mais il faut revenir à ce message initial. Alors, vous dites, Jean-Arnold de Clermont, le chemin de la mission est celui du témoignage. Que voulez-vous nous expliquer par là?
Eh bien, je lis d'autres textes dans le même Nouveau Testament, et notamment dans l'Évangile de Luc, et chez l'apôtre Paul. Dans l'évangile de Luc, il y a un texte qui est exactement situé de la même manière, dernière parole de Jésus à ses disciples au moment où il les quitte. Et à ce moment-là, il leur parle de sa mort et de sa résurrection, donc de l'œuvre de l'amour de Dieu en lui-même, et surtout de la nécessité de prêcher, d'annoncer à tous cette œuvre de Dieu et de changer de comportement et d'être témoin en mettant en pratique le pardon. Et là, vous comprenez bien qu'on est dans une autre atmosphère. Il ne s'agit plus de conquête. Il s'agit d'être soi-même, dans sa propre vie, témoin de ce que l'on a reçu de notre connaissance du don du Christ pour nous, du don de Dieu pour nous. Et c'est exactement ce que je retrouve chez l'apôtre Paul.
Et pour vous, c'est le premier missionnaire.
Il a été le premier missionnaire. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on voit qu'il part ici ou là. Il fait une tournée, une deuxième tournée, une troisième tournée, une quatrième tournée missionnaire pour finir finalement avec un dernier voyage qui le conduira à Rome et à sa mort.
Et dans l'esprit que vous nous indiquiez, celui du partage, celui du témoignage.
Mais Paul, effectivement, d'abord, fait exactement ce que dit l'un des textes de Matthieu que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il annonce l'évangile aux Juifs, et lorsque les Juifs ne le reçoivent pas, il l'annonce aux autres. Mais surtout, il va dans ses épîtres expliquer comment c'est la reconnaissance qui fait de nous des missionnaires. C'est la certitude d'avoir reçu un cadeau incomparable qui fait qu'on se tourne vers d'autres pour partager avec eux ce mystère sublime de l'amour de Dieu pour nous. Et j'ai retrouvé dans un texte de Jean Calvin quelque chose qui m'a beaucoup touché, cette année du 500e anniversaire de la naissance de Jean Calvin, parce que nous ne savons pas ceux qui appartiennent ou non au nombre de la compagnie des prédestinés. On est dans le langage de Jean Calvin. Nous devons être affectionnés à souhaiter le salut de tous. S'il en est ainsi, nous tâcherons de faire tous ceux que nous rencontrerons participants de notre paix. C'est une magnifique manière de parler du partage. La paix qui est en moi, parce que je sais que Dieu m'aime et a envoyé son Fils pour moi, je dois la partager, cette paix, et l'offrir à d'autres. Voyez donc, le Nouveau Testament nous offre donc trois entrées dans cette compréhension de la mission, avec les risques du triomphalisme mathéen, appelons-le comme cela, mais en même temps avec cette concentration sur le témoignage qui part de notre propre expérience et le partage qui est une espèce de nécessité de la foi. J'ai reçu un cadeau, je dois le partager. Chacun de ces modèles est, nous l'avons bien vu dans l'histoire, tout autant tributaire de son fondement évangélique que bien sûr du contexte politique, social, économique dans lequel il va s'inscrire. La mission, elle a été indéniablement, à une certaine époque, disons à partir de la toute fin du XIXe siècle et dans toute la première partie du XXe siècle, engluée dans le colonialisme et dans la colonisation. Mais elle doit aujourd'hui, toujours avec les mêmes fondements évangéliques, trouver un modèle adapté au monde globalisé.
Et c'est la mission actuelle du DEFAP que vous présidez aujourd'hui, Jean-Arnold de Clermont, cette adaptation.
C'est exactement cela. Comment pouvons-nous vivre le partage de ce que nous avons reçu de fondamental de Dieu, du message de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, dans la culture de notre temps globalisé et en portant attention à tous, à leur situation quotidienne? C'est là la compréhension que j'ai aujourd'hui du mot mission.
C'est un éveil, c'est un temps de partage, mais surtout pas imposer quoi que ce soit à l'autre qui est différent de moi et face à moi.
Ça ne peut jamais être de manière surplombante par rapport à l'autre. C'est toujours les yeux dans les yeux, dans le partage de ce que nous avons reçu les uns comme les autres.
Merci Jean-Arnold de Clermont. À bientôt.
Merci.